Vous les avez entendus, les bips de 18h sur France Inter. Bonsoir Claire Servageon.
Ah bonsoir Alex Bizerec, on vous souhaite un bon week-end.
Et on
vous dit à lundi. Merci. C'est parti pour le 18-20 du vendredi. 18h15, une semaine en France avec Vincent Tibéry, professeur à Sciences Po Bordeaux, qui publie « Extinction de vote ?» pour l'interrogation aux presses universitaires de France. À 19h20 au téléphone sonne, agression, menace contre des élus, contre des médecins, contre les centres de vaccination. Passe vaccinale, pourquoi tant de haine? Vous pouvez déjà nous appeler pour en parler au 01 45 24 7000. Mais d'abord, le journal de 18h. Bonsoir Sébastien Legénie.
Bonsoir Claire, bonsoir à tous. Au sommaire ce soir, l'arrivée imminente d'un nouveau vaccin en France qui pourrait convaincre les non-vaccinés. L'américain Novavax, sans ARN messager, a reçu l'aval de la Haute Autorité de Santé aujourd'hui. Les détails et les conséquences de cette annonce en début de journal. La fin du parcours épique du pass vaccinal au Parlement. Deuxième lecture aujourd'hui à l'Assemblée nationale, nous serons sur place. La mort de Jean-Jacques Benex, le réalisateur de 37-2 le matin, est décédé hier soir à l'âge de 75 ans. L'hommage du compositeur de ses musiques de films dans ce journal. À suivre aussi le feuilleton Djokovic, menacé de retourner en rétention ce soir. Le feuilleton Johnson, Boris Johnson, avec une dernière fête à Downing Street qui menace de plus en plus son avenir politique. Et pour finir, le dernier livre de Geneviève Brisac, Choix culture de la semaine.
France Inter. C'est un vaccin plus classique que les autres. Il est désormais autorisé en France.
Le Novavax a donc reçu aujourd'hui le feu vert très attendu de la HAS, la Haute Autorité de Santé. Cinquième sérum autorisé en France, à côté du Pfizer, Moderna, AstraZeneca et Janssen. Conçu par un laboratoire américain, il est très différent des vaccins Pfizer et Moderna. Ici, pas d'ARN messager, cette technologie qui continue encore d'inquiéter une partie de la population. Le Novavax est basé sur un procédé déjà bien connu. Bonsoir Norenstein.
Bonsoir Sébastien.
Les autorités françaises espèrent donc en faire une alternative efficace pour les non-vaccinés.
Oui, c'est ce qu'on appelle un vaccin sous-unitaire. Pour faire simple, on ne prend pas le virus en entier, on prend seulement des tout petits bouts de la protéine spike. On leur ajoute un adjuvant et on l'injecte. Et là, le système immunitaire va réagir. Il va apprendre à se défendre. C'est une technique qu'on connaît déjà bien pour les vaccins. Elle est utilisée pour la coqueluche, la méningite à méningocoque ou encore pour l'hépatite B. La Haute Autorité de Santé fait donc le pari d'une alternative rassurante. Le professeur Elisabeth Bouvet est la présidente de la commission technique vaccination à la HAS.
Ce qu'on se dit, c'est qu'il y a des personnes qui ne se font pas vacciner parce que peut-être elles ne souhaitent pas avoir de vaccin ARN. Donc on pense que c'est une cible possible. Il y a aussi d'autres personnes qui ont pu faire des événements, des effets indésirables graves. Ils sont très peu nombreux, comme vous savez, mais enfin il y en a, qui ont pu avoir une dose de vaccin ARN et qui n'ont pas pu avoir la deuxième dose. Dans ce cas-là, le vaccin Novavax peut être utilisé en deuxième dose.
Les études montrent une très bonne efficacité de Novavax. 90% contre les formes symptomatiques, 100% contre les formes graves. Mais attention, les tests ont été faits avant les vagues Delta et Omicron. Les premières doses de Novavax, 1 million environ, devraient être livrées en France début février.
Anne Orenstein, et puis dans la même logique, rassurer les non-vaccinés, l'avis de la Haute Autorité de Santé concerne aussi un autre vaccin déjà autorisé, le Janssen, conçu lui aussi sur une technologie sans ARN messager. Il sera désormais possible de l'utiliser, mais avec deux doses, et d'abord pour les plus de 55 ans. On le disait, environ 5 millions de personnes en France ne sont pas du tout vaccinées, et c'est elles qui sont la cible du texte actuellement débattu entre l'Assemblée nationale et le Sénat. Le pass vaccinal est donc retourné cet après-midi devant les députés. Les parlementaires ont en effet échoué hier à trouver un compromis en commission mixte paritaire. Bonsoir Simon Le Baron.
Bonsoir.
Une deuxième lecture au Palais Bourbon qui devrait aller assez vite. On s'approche, Simon, donc de la fin d'une bataille parlementaire rocambolesque.
Et en gage de bonne volonté, la majorité a consenti à quelques modifications. Le pass vaccinal ne s'appliquera finalement qu'aux plus de 16 ans et les amendes aux entreprises qui ne respectent pas le télétravail seront divisées par 2 à 500 euros par salarié. C'est Gabriel Attal, le porte-parole du gouvernement, qui remplace son collègue covidé, Olivier Véran.
Nous venons devant vous pour vous demander d'inciter une nouvelle fois, et plus fort encore, nos compatriotes à la vaccination.
L'exécutif assume, la fonction première du pass est bien de mettre la pression sur les non-vaccinés. Un détour par le Sénat demain, il devrait être adopté ici définitivement dimanche et entrer en vigueur au plus tard en fin de semaine prochaine. Vivement la fin, ironise le député RN Nicolas Maisonnet.
Arrêtez cette comédie. Les Français nous écoutent, les Français nous regardent. Ils ne sont pas stupides. Ils comprennent que depuis une semaine, vous leur jouez une pièce de théâtre, Tartuffe peut-être.
Et les insoumis et les communistes continuent de pilonner le texte. Les LR, eux, sont quasi absents. Ils ont déjà suffisamment montré leur division, malgré la ligne propasse fixée par Valérie Pécresse. Jean-Félix Acquaviva, du groupe Liberté et Territoire, résume.
L'examen pour le moins chaotique de ce projet de loi montre une chose, nous sommes entrés de plein pied dans la campagne présidentielle.
Déclaration incendiaire du président de la République, intox, coup fourré et psychodrame autour d'un tweet. 10 jours dont, de l'aveu même de beaucoup de députés ici, le Parlement ne sort pas grandi.
Simon Le Baron avec Geoffrey Marianne à l'Assemblée nationale. La colère des enseignants est-elle apaisée? Les annonces du gouvernement hier soir ont-elles suffi à éteindre les risques d'incendie dans les classes? Une intersyndicale est actuellement en cours, réunissant toutes les organisations ayant appelé hier à la grève. Les syndicats qui demandent en particulier la création d'un comité de suivi afin de vérifier l'application concrète des engagements du ministère et notamment le recrutement de 3300 enseignants contractuels très prochainement.
Un vendredi noir pour EDF.
Oui, l'électricien a perdu des milliards d'euros en une seule journée. Son cours de bourse a dévissé aujourd'hui, moins 15%. Les marchés financiers qui sanctionnent les difficultés qui s'enchaînent depuis quelques jours, un retard de plus sur l'EPR de Flamanville, des problèmes de corrosion sur de nouveaux réacteurs et surtout EDF est lourdement mise à contribution par le gouvernement. Pas question que les prix de l'électricité augmentent de plus de 4% pour les Français, alors que les prix de l'énergie flambent sur les marchés. Facture salée au final, 16 milliards d'euros d'efforts, 8 milliards de pertes pour l'État à cause de la très forte baisse de la principale taxe sur l'électricité et 8 autres milliards donc à la charge d'EDF qui va devoir vendre plus d'électricité à bas prix cette année à ses concurrents. EDF qui entre donc dans une période d'incertitude. C'est l'analyse de Patrice Joffon, il est économiste spécialiste de l'énergie.
Ce qui est assez délicat dans l'évolution du cours de bourse, c'est de détourer ce qui relève de la décision sur le bouclier tarifaire et puis par ailleurs ce que sont les nouvelles autour des différents réacteurs qui vont être en maintenance pendant quelques mois. Il y a une série d'accumulations de nouvelles qui ne sont pas favorables à EDF et puis par ailleurs le cycle politique fait que la situation pour ce qui est d'une éventuelle recapitalisation d'EDF, de la manière dont l'État prendra sa part dans l'effort qui a été fait par EDF, eh bien tout ça n'interviendra qu'après les élections. Évidemment, la conjonction de ces deux nouvelles a pu marquer les marchés. Et donc, dans l'entre-deux, eh bien, il y a cet état d'incertitude qui va sans doute s'étendre à minima pendant quelques mois.
L'économiste Patrice Joffron avec Laurent Kramer. C'est sa première augmentation en 10 ans. Le taux de rémunération du livret A va doubler au 1er février prochain et passer de 0,5 à 1%, en dessous toutefois du niveau de l'inflation, 2,8% en décembre dernier. Quand le tennis tourne au drame kafkaïen, il s'agit bien sûr de la série Djokovic en Australie, dont le dernier épisode a tourné en sa défaveur. Ce matin, les autorités lui ont refusé pour la deuxième fois son visa d'entrée. À ce stade, Alexandre Vaux, le numéro 1 mondial du tennis, est donc encore libre, mais il risque de repartir en détention le temps qu'un tout dernier appel soit examiné par la justice.
Contrairement à l'annulation de son premier visa après son arrivée en Australie le 5 janvier, cette fois Novak Djokovic n'a pas été placé en rétention, mais il s'agit d'un sursis. Le numéro 1 mondial de tennis qui a pu s'entraîner ce vendredi doit être à nouveau interrogé par les services d'immigration dès ce soir, c'est-à-dire demain matin, heure australienne, et le gouvernement sur place a déjà prévenu. Il compte bien placer Novak Djokovic en rétention à nouveau dès ce soir après son interrogatoire. Par ailleurs, le Serbe de 34 ans risque toujours d'être expulsé. Ce sera là à la justice de se prononcer. Dernier rebondissement en date dans cette affaire, le juge de l'État de Victoria a annoncé s'être dessaisi au profit de la justice fédérale. Les avocats de Novak Djokovic craignent un ralentissement de la procédure. L'Open d'Australie commence lundi et la participation du triple tenant du titre est de plus en plus compromise.
Alexandre Vaux, au chapitre série à rebondissement, il y a aussi le sens de la fête à Downing Street. Nouvelle révélation aujourd'hui avec un pot de départ arrosé dans les jardins de la résidence du Premier ministre le 17 avril 2021, sans Boris Johnson cette fois, mais à un moment très inopportun, la veille des obsèques du prince Philippe. Nouvelle excuse de Downing Street et nouvel appel à la démission du Premier ministre. Laura Calmus nous appelle de Londres.
Ces fêtes clandestines sont en train de prendre des proportions inattendues. Downing Street a même présenté des excuses au palais de Buckingham, car cette fois-ci, elles ont eu lieu la veille des funérailles du prince Philippe. Boris Johnson n'était pas à ces fêtes, mais à cela s'ajoutent les autres révélations et les dizaines d'événements qui ont eu lieu à la résidence du Premier ministre, en plein confinement en 2020 et 2021. Alors avec ces scandales, Boris Johnson a perdu en crédibilité et popularité. Au sein même de son parti, de nombreux députés conservateurs lui ont déjà tourné le dos et se sont joints à l'opposition pour réclamer sa démission. Le Premier ministre semble ne plus être à l'abri d'un vote de défiance, même si avant de tirer des conclusions, tous attendent les résultats d'une enquête interne qui déterminera exactement ce qui s'est passé et les erreurs commises par le gouvernement. Indignation également des proches de victimes. Selon un sondage, 56% des Britanniques estiment également que le Premier ministre devrait démissionner. Londres, Laura Calmus, France Inter.
Il était en fuite depuis 20 ans. Le frère du baron de la drogue français a été arrêté totalement par hasard par la police sur une aire d'autoroute près de Besançon. C'était début janvier. Hakim Ambly est le frère de Sofiane Ambly, lui aussi en cavale, interpellé lui en octobre dernier. C'était au Maroc.
Comment tu me trouves ?
Elle m'a fait penser à une fleur étrange munie d'antennes translucides et d'un cœur en sky mauve. Et je connaissais pas beaucoup de filles qui pouvaient se fringuer comme ça avec autant d'insouciance.
Jean-Hugues Anglade et Béatrice Dalle, on est en 1986, extrait de 37.2, le matin, une histoire d'amour devenue culte dans le cinéma français. Son réalisateur vient donc de mourir hier soir. Jean-Jacques Benex avait 75 ans. Il y a eu aussi La Lune dans le caniveau, ou IP5 avec Yves Montand. Trois films dont Gabriel Yared avait composé la musique. Il se souvient d'un homme qui aimait la musique et la vie.
Jean-Jacques m'avait vu dans une émission consacrée à Jacques Dutronc, un grand échiquier, dans lequel je jouais la musique que j'avais écrite pour Jean-Luc Godard. Donc je venais à peine de commencer. Et donc il m'a appelé pour La Lune dans le caniveau. Et ça a été une entente immédiate, parce qu'il avait envie que j'écrive de la musique avant le tournage. Il venait chez moi, on passait du temps au piano, il était très musicien. Il aimait rire, il aimait manger, il aimait vivre. Et juste après, nous avons travaillé ensemble sur 37.2 le matin. Quand j'allais au tournage, les acteurs connaissaient la musique. Et il était toujours là, chantant les thèmes, entraînant tout le monde autour de lui. Tout ce que je peux dire, c'est une de mes collaborations les plus belles. C'est étrange parce que comme on ne se voyait plus, j'ai voulu lui écrire. Il ne regardait pas beaucoup ses mails récemment. Il l'a enfin découvert. Je lui disais qu'il me manquait, que ces moments de rire, de bonheur qu'on a eu ensemble me manquaient beaucoup. Et il m'a dit que c'était réciproque, que malheureusement, il luttait contre la maladie.
Gabriel Yared, compositeur de la musique des films de Jean-Jacques Benex, mort aujourd'hui à 75 ans. On y revient plus longuement dans le journal de 19h d'Hélène Fillier sur franceinter.fr. Lui était une star de l'architecture. L'Espagnol Ricardo Bofill a disparu aujourd'hui, à l'âge de 82 ans, connu notamment en France pour ses constructions à Noisy-le-Grand ou le quartier Antigone à Montpellier.
Un conseil lecture à présent, Sébastien, validé par le service culture d'Inter.
Oui, le dernier livre de Geneviève Brisac, dont le personnage fétiche, Nook, illumine ce mois de janvier avec Les Enchanteurs, un roman dont l'héroïne incurable optimiste est confrontée à la vie de bureau, sa misogynie ordinaire, ses mesquineries et ses trahisons. Ilana Bruyoussef.
Ce qu'on aime chez Geneviève Brisac, c'est l'ironie tendre et moqueuse de ses livres. C'est toujours une joie de retrouver Nook, le personnage récurrent de son œuvre. Après de brillantes études, un épisode anorexique, quelques tentatives révolutionnaires, Nook, bardée d'illusions, s'embarque dans la vie professionnelle.
Elle arrive dans l'édition La Fleur au Fusil et elle est convaincue que, d'une part qu'on l'attend, ce qui est évidemment totalement stupide, et puis elle est convaincue que, puisqu'elle a plein d'idées, eh bien, elle va pouvoir les mettre en pratique. Et donc là, elle va se heurter effectivement au fonctionnement. Et c'est ça, les enchanteurs. Les enchanteurs sont là pour lui dire « C'est pas comme ça que ça marche, ma petite. Et d'ailleurs, tu vas l'apprendre à tes dépens. »
Avec son goût des scènes brèves, ses dialogues enlevés, son humour délicat, Geneviève Brisac ausculte les luttes de pouvoir en entreprise. Séduction, misogynie ordinaire, petite trahison entre amis.
À un moment donné, une des collègues de Nook lui dit « Je te soutiendrai bien, mais malheureusement, j'ai une famille, j'ai des enfants. » Donc je ne peux pas me mettre à tes côtés. Cette expression de la peur, c'est l'expression même de ce qu'on peut craindre des humains quand ils se mettent à avoir peur et donc à se trahir les uns les autres pour survivre.
Le secret que Nouk la rêveuse est bien incapable de mettre en application, elle le découvre trop tard. Pour survivre, il ne faut ni obéir, ni désobéir, il faut ruser.
Les enchanteurs de Geneviève Brisac, publié aux éditions de l'Olivier et recommandé par Ilana Mor-Youssef.
Merci beaucoup, c'était le journal de Sébastien Le Génie. On prend des nouvelles du temps.
La météo à toutes jambes avec Bleu Forêt, le fabricant français de collants élégants. Noir ou vert, pruneau rouge, de toutes les couleurs, fin ou opaque. Rendez-vous sur bleuforêt.fr.
Bonsoir Elodie Calac.
Bonsoir à tous.
Il ne fera pas 37 de demain matin, ça c'est sûr. Il fera froid et le temps sera souvent ensoleillé. Et
oui, des gelées fréquentes hein, demain matin, moins 5 à 0 degrés le plus souvent. L'après-midi, 2 à 8 degrés, 8 à 12 quand même sur le sud-ouest et 11 à 15 en Méditerranée. Côté ciel, on aura du soleil après la grisaille du matin, alors quelques brouillards givrants vers les vallées du sud-ouest, dans le Val-de-Saône. Nuages bas et brouillards givrants assez nombreux du nord-ouest jusqu'au nord de l'Alsace. Et puis, l'après-midi, les nuages domineront sur la Bretagne, la Vendée, le Cotentin, mais ailleurs, vous aurez du soleil.
Et un petit mot pour dimanche?
La grisaille persistera davantage sur les régions du nord. Le soleil sera vraiment discret, alors qu'au sud, il s'imposera rapidement. Et il fera toujours froid, beaucoup de gelée le matin. L'après-midi, une moyenne de 5 degrés au nord et de 9 au sud.
Merci beaucoup, Elodie Calac de Météo France.